Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et, oula, j'étais loin du micro. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est le lendemain de Noël, normalement, hein, enfin le moment où cet épisode est publié, c'est le 26 décembre, et je vous souhaite donc à tous et à toutes un excellent, merveilleux, joyeux Noël. Et du coup, hein, puisqu'on est au milieu, on va aussi vous souhaiter un très bon nouvel an et une très belle nouvelle année. Positron, vous le savez, c'est le meilleur moyen de passer d'excellentes vacances de fin d'année, puisque si vous êtes paresseusement en train de digérer votre lourd repas de Noël et que vous n'avez pas vraiment envie de bouger de votre canapé, vous pouvez très facilement avoir des conseils de films ou de comics ou de d'autres choses à regarder, à consommer, à écouter paresseusement depuis votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur. Vous tapez un tout petit peu et vous aurez accès à tout ça. Et quoi choisir? Évidemment, c'est en écoutant Positron que vous le saurez. Et pour m'aider à vous recommander des articles sympathiques, j'ai, comme la semaine dernière, à côté de moi, Marion et Vivian. Comment allez-vous tous les deux?
Bonjour. En tout cas, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui réagisse.
Oui, non, moi je te laissais passer en première.
C'est gentil, tu es galant. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais très bien.
Comment s'est passé ton Noël, Marion?
Alors, si je réfléchis bien, il s'est bien passé, a priori.
D'accord. Bon, vous l'aurez compris, on enregistre un petit peu avant.
Normalement, je suis en chemin pour aller voir Le Seigneur des Anneaux, enfin, La Désolation de Smaug.
Oui, tu vois, c'est marrant à quel point on dit Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si certains d'entre vous ont lu Le Hobbit, mais Le Hobbit, c'est vraiment pas Le Seigneur des Anneaux.
Tout à fait. Non, je l'ai lu, mais c'est vrai que comme c'est le même réalisateur, on fait l'amalgame.
Bah, disons que même la manière, enfin, j'ai vu les bandes annonces, hein, jusqu'ici, mais ça a été transformé, trituré pour ressembler vachement au Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus épique, il y a une énorme aventure, machin. Dans Le Hobbit, c'est pas aussi,
c'est aussi
aventureux. Ouais, n'est-ce pas, Vivian?
J'ai vu 20 minutes déjà du Seigneur des Anneaux, enfin, voilà. C'est The Hobbit, La Désolation de Smaug, et effectivement, ça confirme exactement ce que vous dites. C'est très.
N'en dis pas trop, hein, s'il te plaît.
Oh non, j'ai rien vu de spoilesque.
Ouais. C'est juste Seigneur des Anneaux-esque.
Voilà, exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Bon, et j'ai oublié de me présenter comme d'habitude. Je suis Patrick Béja, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et justement, je me disais, on est en plein Noël, et je me disais, ça serait peut-être sympa de faire genre un Positron spécial Noël avec des trucs à recommander, peut-être l'épisode précédent ou un truc comme ça quand on préparait. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est pas la peine. Positron, c'est Noël à chaque épisode.
Oui, exactement. C'est ça.
Vous pouvez avoir des conseils de trucs à offrir, des conseils de trucs à vous offrir. Donc oui, c'est pas la peine de faire un épisode spécial Noël. C'est très bien. Bon, et justement, en parlant de trucs cool à découvrir, je vais vous parler, moi, d'un comic. Donc, qui dit comic dit américain, hein, évidemment. C'est une BD qui vient des États-Unis. Et c'est un truc assez particulier qui, moi, me plaît vraiment. Ça s'appelle Saga. Et c'est où j'ai oublié le nom de l'auteur. Je crois que c'est Brian K. Vaughan. Alors attendez, je vais vite aller rechercher sur Wikipédia pour avoir l'air d'être professionnel. Voilà, c'est Brian K. Vaughan, j'y étais presque, qui écrit. Et ceux qui connaissent un petit peu le monde des comics sauront qu'il a déjà fait un autre comic assez connu qui s'appelle Why the Last Man, qui est d'ailleurs en train, alors je vais faire toute la boucle, qui est d'ailleurs en train d'être adapté au cinéma par un animateur d'un podcast que les amateurs de podcast anglophones connaîtront forcément, qui s'appelait The Totally Rad Show.
Ah oui.
Tu connais, bah voilà.
Bah le
Dan Trachtenberg, qui est réalisateur, qui était animateur là-bas, est en train d'adapter au cinéma.
Qui a fait un excellent court-métrage aussi sur le jeu vidéo Portal,
ouais,
aussi, je crois.
Qui était assez sympa, ouais. Et donc Brian K. Vaughan a lancé ce nouveau comic qui s'appelle Saga, qui a été lancé l'année dernière. Ça doit faire un an et demi maintenant, peut-être quelque chose comme ça, un an et demi. Donc c'est vraiment un truc qui est en cours. Hein. Il y a une quinzaine de numéros qui sont sortis et il est l'artiste qui dessine le comic est une femme qui s'appelle Fiona Staples. Je le mentionne parce que c'est un type de comment dire un type de narration qui est très particulier et qui alors c'est un homme qui écrit le comic mais on aurait presque l'impression que ça pourrait être une femme et je me dis peut-être que le fait que qu'une femme fasse les dessins a une petite influence là-dessus. C'est vraiment quelque chose de différent. Alors on est très loin de pas très loin mais on est relativement loin des comics Marvel DC, des trucs de super-héros très classiques qui sont pas forcément hyper malins mais qui envoient de la baston. Là on est dans un truc de science-fiction, mais science-fiction à univers. C'est un truc où il y a une mythologie qui est assez développée et on rentre dans cette mythologie par la petite porte. C'est un comic où on va avoir on va arriver dans un univers où les choses différentes de notre univers sont déjà acquise. On va pas du tout passer du temps à vous expliquer les choses, mais c'est suffisamment bien écrit pour qu'on n'ait pas besoin de vous les expliquer. Vous les découvrez au fur et à mesure des pages et c'est introduit à un bon rythme, c'est dans des situations qui vous permettent de les découvrir et donc vous n'avez pas on n'est jamais perdu et en même temps c'est vraiment un univers dépaysant. Je vais raconter le tout début de la série. C'est une sorte d'histoire de Roméo et Juliette, hein, c'est deux personnages de factions ennemies, de races ennemies dans cet univers qui sont amoureux et qui vont avoir un bébé et qui vont devoir fuir en fait les deux camps parce que aucun des deux ne veut que c'est une chose comme celle-là soit possible que ces deux-là soient enfin restent ensemble évidemment c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour eux. J'ai pas envie d'en parler trop, hein, comme d'habitude, j'essaye de pas du tout spoiler, mais je vais quand même essayer de toucher du doigt un tout petit peu le type d'étrangeté qu'amène cet univers. Une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que l'un des personnages est capable de faire de la magie. Et dans un moment d'action, il dit oui, je peux faire un truc magique, mais j'ai besoin d'un ingrédient. Et alors évidemment, dans tous les trucs classiques de science-fiction ou de fantasy, on se dirait bon, un ingrédient, il a besoin d'une plante bizarre qui pousse sur la planète truc schmuche, machin où il faut aller la trouver. Et non, lui, il dit j'ai besoin d'un ingrédient. Il faut que tu me dises un secret, un truc que t'as jamais dit à quelqu'un d'autre. Et il utilise le secret pour lancer son sortilège et il réussit à s'en sortir comme ça. Et donc l'ingrédient c'est un secret, c'est quelque chose de qui attaque le problème d'un angle différent qu'on n'attend pas. Et cette BD est bourrée de petits trucs comme ça, bourrée. Il y en a énormément. Les personnages sont pas toujours les personnages qu'on attendrait sexy sont pas sexy. Les personnages qu'on attendrait terrifiants le sont pas forcément, mais en fait ils sont terrifiants. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça particuliers qui font que la BD est quelque chose qui est bon. C'est pas quelque chose de totalement barré non plus, mais c'est juste un petit peu décalé, un petit peu à part. Et c'est une BD à la fois d'aventure, d'action et d'émotion. Donc, il y a à boire et à manger dans le truc. Et si vous êtes un tant soit peu fan de BD, si vous aimez les comics, mais que vous êtes un petit peu lassé des comics de super-héros et que vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus indépendant, mais de quand même digeste et de quand même commercial, on va dire, eh ben, je peux vraiment vous recommander d'aller vers Saga les yeux fermés. C'est un excellent comic et je pense qu'il plaira à. Je dis pas pour tous parce que c'est quand même un comic. Je vais pas le recommander à ma grand-mère, on va dire. Mais c'est quand même un truc qui plaira à tous les fans de BD ou de comics, je pense. Ou en tout cas, c'est potentiellement quelque chose qui vous plaira, donc vous pouvez aller le découvrir. Je le répète, ça s'appelle Saga, et c'est un comic qui est disponible a priori qu'en anglais, mais c'est pas très compliqué. C'est disponible donc sur l'application Comixology, qui est sur toutes les tablettes, hein, et même sur sur PC. Donc c'est pas très difficile à obtenir. Voilà pour ma description de Saga. Vous connaissez pas Saga, j'imagine, non?
Pas du tout, mais ça donne envie.
Oui, ah, moi je suis totalement aussi étranger à ce
type d'univers.
Ce type d'univers, oui, absolument.
D'accord. Bon, ben c'est peut-être effectivement. J'ajouterais en conclusion que c'est un excellent moyen de rentrer dans l'univers des comics, parce que encore une fois, on est loin des trucs de super-héros un petit peu bourrins, et ça montre qu'il y a dans les comics des choses vraiment intelligentes et intéressantes. Donc un bon moyen de les découvrir aussi. Voilà, Marion, tu nous parles de cinéma.
Je devais vous parler de Phoenix.
J'avais changé, mais c'est pas grave.
Tu allais trop vite. Ah, d'accord, oui. Désolé, j'ai pas.
C'est
vu.
Pas grave, je corrige. Hop, voilà, vas-y, Phoenix.
Donc du coup, voilà, moi je vous parle de Phoenix, du dernier album. Donc c'est un groupe de rock français qu'a priori tout le monde connaît, vu qu'ils ont eu un énorme succès en France avec leur avant-dernier, donc Wolfgang Amadeus Mozart. C'est un groupe qui, comme R, est plus connu à l'étranger, beaucoup plus reconnu à l'étranger qu'en France, parce qu'ils ont fait tous les plateaux télé américains, ils ont eu des récompenses là-bas, enfin, et bien avant Wolfgang Amadeus Mozart, hein, ils ont été reconnus bien avant.
Tu veux dire Wolfgang Amadeus Phoenix?
Tu mets un doute là. Oui, exactement. Depuis tout à l'heure, je fais l'erreur, oui. Mais c'est ça. C'est
et je le savais tout à fait. Et c'est pas du tout parce que je suis allé regarder sur Wikipédia que je te dis ça.
Je fais la suite logique des noms et du coup voilà.
D'accord. Oui, pardon, donc, voilà, je t'ai interrompu.
Wolfgang continue. Amadeus Phoenix. Et donc voilà.
Sinon, c'est un vieux groupe. Hein, si c'est Wolfgang Amadeus.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Très vieux.
Et qui est très connu en France aussi. Pour
oui,
le
oui. Ah oui, oui, oui. Et là, vraiment reconnu.
Est-ce que ça reste sa place dans Positron? Je sais pas. Hein.
C'est de la culture.
Si, ça pourrait.
Ah ouais, mais c'est pas quelque chose à découvrir. Tout le monde connaît Mozart.
Tout le monde s'y intéresse pas, justement.
Oui, oui, je suis pas tout à fait d'accord.
C'est une bonne idée.
Je saurai quoi choisir la prochaine fois, alors.
Bon, donc vas-y, Phoenix, tu disais.
Donc voilà, donc c'est un groupe pas tout à fait nouveau, vu que quand même ils ont 13 ans de carrière, hein, il y a 5 albums à leur actif, et ils ont de nombreuses participations dans les BO, etc., et notamment les films de Sofia Coppola, hein, vu que le leader est le compagnon de vie de Sofia Coppola. Et ils ont aussi dans leur connaissance les Daft Punk, évidemment, parce qu'ils se sont connus au collège-lycée, et l'un des membres du groupe a fait partie de l'ancien groupe de Daft Punk qui s'appelait à l'époque Darlene. Donc voilà, ils s'accoquinaient ensemble à un moment donné, et pas si longtemps, parce que les Daft Punk les a rejoints à leur concert du Madison Square Garden le 20 octobre 2010. Donc ils continuent quand même à s'amuser ensemble, et je trouve ça quand même assez sympa. Donc voilà, à part cette petite anecdote, je voulais parler de Bankrupt quand même. Alors je sais pas si je le prononce bien, parce que alors, j'ai un petit peu du mal. Mais Bankrupt, bon, donc le dernier album. Qui est sorti en avril 2013 et qui s'est un peu fait évincer, je trouve, par la sortie du dernier album des Daft Punk, pour le coup. On a plus parlé du nouvel album Daft Punk que Phoenix. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Je trouve qu'il mêle vraiment agréablement tous les sons électro, pop, rock. Il y a quelques sonorités asiatiques dans cet album, notamment avec le premier single Entertainment. Et vraiment, ils se sont amusés à faire une succession de titres de tubes radio imparables, idéales pour votre bande son du premier de l'an. Et avec des expérimentations musicales, notamment le titre éponyme qui est un morceau complètement instrumental, et vraiment une expérience musicale très très sympa qui coupe l'album en deux et permet une respiration. L'album est vraiment pensé comme une œuvre. Il s'écoute en entier. Il y a des chansons qui se font écho entre elles, avec des rappels de rythme, des rappels de sonorité. On entend plus ça de nos jours, je trouve. C'est rare quand un album est vraiment pensé comme une œuvre complète, en fait. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont en live, j'ai eu la chance de les voir en live en juin, et ils s'amusent à patcher, à mixer leurs chansons ensemble, notamment une de leurs un de leurs anciens tubes, c'est Love Like a Sunset, avec Bankrupt, donc ce titre instrumental qui permet donc au chanteur de faire une pause puisqu'il est complètement instrumental, et à la fin il vient reprendre le morceau en chantant Love Like a Sunset, et ça c'est une montée en puissance assez unique et vraiment vraiment très agréable, et la tension et l'émotion est vraiment là, donc vraiment très sympa. Et aussi on peut le voir dans leur clip, c'est Trying to be cool, je crois, le clip, oui c'est ça, qui donc
Trying to be cool. Ah, trying to be cool.
Exactement,
okay.
Ouais. Et en fait, ils ont fait un clip un peu délire où en fait la chanson est faite en une seule prise, et c'est un mélange de petites scénettes. En fait, il y a deux équipes de tournage qui alternent. L'une filme pendant que l'autre prépare la prochaine scène dans laquelle le chanteur évolue et court pendant que les autres jouent. Enfin, avec plein d'acteurs et qui interviennent. Et en fait, ils l'enchaînent à la fin de ce titre avec, si je me rappelle bien, Dracar Noir, qui est un autre titre de l'album.
J'ai cru que moi ça me faisait penser au parfum, mais c'est pas exactement la même chose.
Non.
Dracar Noir.
Ouais, ouais,
non,
non, non.
Connaissais pas.
Non, je connais le nom du parfum, mais c'est pas vraiment la même ambiance.
D'accord. Ok.
Et du coup voilà, il y a juste la fin du morceau de Dracar Noir qui est repris à la fin de Trying to be Cool. Et comme quoi ces deux chansons s'entremêlent parfaitement bien, alors que dans l'album a priori ils sont pas l'un après l'autre. Donc ils s'amusent vraiment à jouer avec leurs morceaux, à les déformer, à faire des montages entre eux. Et il y a une sophistication assez intéressante. Et donc on peut écouter plusieurs fois l'album et découvrir de nouvelles choses en fait. Il y a toujours une montée en puissance dans chaque morceau et des petites richesses comme ça qu'on écoute et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc super parce qu'il y a plein de tubes. Et hyper intéressant également parce qu'il y a plein de sophistication, de petits détails à découvrir au fur et à mesure, d'influence, et voilà. Donc, joli cadeau et joli BO de premier de l'an, très entraînant et parfait, ça met l'ambiance.
Donc on rappelle le titre, hein, ça s'appelle Bankrupt, et c'est de Phoenix, le groupe français.
Ils sont en concert de toute façon l'année prochaine en 2014. Ils passent à Nantes, à Paris et tout. Ils ont même été annoncés au Festival Garo Rock. Donc vous aurez l'occasion de les voir si vous aimez et si vous avez le coup de cœur.
Entre parenthèses, Phoenix s'est écrit avec un O et un E dans l'eau, qui est la manière américaine d'écrire Phoenix. Ce qui est bizarre, puisque c'est un groupe français. Normalement, Phoenix en français, c'est écrit avec un E accent aigu, si je ne m'abuse. Donc il y a.
Oui, c'était
C'était le point syntaxique.
Voilà.
De...
Non, mais enfin, tu vois, je.
De l'épisode.
Bon, bref, oui. C'est pas forcément l'information la plus intéressante de l'épisode.
Non, mais.
Mais pour retrouver.
Ça rejoint quand même l'aspect qu'ils ont fait plus leur carrière à l'étranger.
Bah, oui.
Ils ont toujours fait leurs textes en anglais. Enfin, la plupart du temps, je crois, j'ai jamais entendu de chansons en français.
Ouais.
Ils ont, cette volonté d'aller à l'international. Et comme je disais, ils ont quand même plus de succès ailleurs qu'en France.
Ouais,
en France, c'est un peu snobé parce que c'est un groupe versaillais. Donc, c'est comme R, c'est un peu trop snob, un peu trop hype. Voilà. Mais ça vaut le coup. Vraiment.
Ok, super. Vivian, à ton tour de nous enchanter.
Oui.
Attention, hein, c'est Noël,
oui, alors...
donc là, c'est
faux. Ah bah oui,
faux.
Et puis franchement, ça rentre totalement dans la thématique de Noël. C'est vraiment un cadeau idéal pour vos neveux, nièces.
Ouais, enfin, Noël, c'était il y a deux jours, hein, donc...
Ouais, mais si
vous l'avez raté, ouais, d'accord,
voilà.
Ok.
Si vous l'avez raté, non, ou si vous avez eu de l'argent de poche à Noël, ça peut aussi arriver.
Ouais.
Ça peut arriver.
C'est vrai.
Les chèques cadeaux, par exemple, de la Fnac ou Amazon, par exemple. Bah voilà, allez acheter ça en DVD. C'est Les Enfants Loups Ameyuki, un film d'animation de Mamoru Hosoda. Je pense qu'on le prononce comme ça.
Hosoda.
Oui, c'est de l'eau.
Le
mélangé de l'eau et
ouais,
de l'eau.
Le H est sonore, donc c'est Hosoda.
Hosoda, ok. le monsieur a fait quelques films auparavant. Il a commencé au cinéma avec la série des Digimon, non pas la série d'animation, mais enfin les films portés à l'écran tiré de la série d'animation. Il a fait One Piece aussi. Puis d'un seul coup, il a eu une sorte de virage dans, visiblement dans sa carrière, et il s'est concentré sur plus du cinéma d'animation d'auteur, on va dire vraiment, et moins grand public comme les Digimon ou des choses comme ça, avec La Traversée du Temps que je n'ai pas vu, mais surtout Summer Wars que j'avais vu à l'époque et sorti en 2009, qui est un excellent film. Et en fait, j'ai été orienté vers Les Enfants Loups, Aimé Yuki, parce que l'an dernier, en 2012, fin 2012, j'avais demandé à mes auditeurs dans sa tourne de faire le top 10 des films de l'année 2012, d'après eux, etc. Et il y a pas mal de fois, alors évidemment c'était pas concerté, je les recevais par mail, hein, ces tops-là, et souvent dans les classements, il y avait ce film-là qui ressortait, et je me disais, mais d'où qu'il sort, j'en ai pas entendu parler, comment ça se fait, etc. Et il était placé quand même assez systématiquement dans les 4e, 5e places quand il était dans les classements. Il est revenu au moins 4 ou 5 fois hein, de mémoire. Et c'était assez surprenant, personne de chez Saturn ne l'avait vu. Et là encore récemment, il y a un auditeur qui m'a dit oh, c'était vraiment bien ce film-là que vous avez recommandé l'an dernier et tout. Alors du coup, je me suis penché sur la question, d'autant que j'avais beaucoup aimé, comme je l'ai dit, Summer Wars, sa précédente réalisation. Et j'ai remarqué qu'en fait, effectivement, le film est passé relativement inaperçu parce qu'à l'époque, il est sorti donc en août 2012, et il était sorti que dans 49 salles. C'est vraiment très 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 peu.
Moi j'en ai tout simplement jamais entendu parler, donc
voilà, donc
pourtant moi j'ai vu pas mal de fois la bande annonce et
et en fait il y a eu un bon bouche à oreille autour du film qui est resté assez longtemps à l'affiche. Ils ont même augmenté le nombre de copies pour arriver vers une centaine de copies, ont doublé le nombre de copies. Et au final en octobre de cette année, il leur a fait en tout plus de 200 000 entrées, ce qui est juste la première, enfin le plus gros score du réalisateur en termes de box-office. Donc voilà, c'est un beau succès et voilà, il mérite d'être mentionné. Donc du coup, ça nous parle de quoi, Les Enfants Loups? Alors pareil que Patrick, j'ai essayé de ne pas trop défleurer l'histoire parce que ça serait un peu dommage. Donc ça raconte l'histoire de Fleur, qui est une étudiante de 19 ans qui tombe éperdument amoureuse d'un jeune étudiant solitaire un petit peu à l'écart à l'université. Il s'avère que cet étudiant solitaire est un homme loup, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en loup. Mais attention, c'est pas un loup-garou, c'est du tout cette thématique-là. C'est vraiment, il se transforme de manière très poétique en loup. Et concrètement, c'est un loup qui parle, etc. Et de cette union naîtra deux enfants. D'abord une fille qui s'appelle Yuki, qui veut dire neige en japonais, et puis un garçon, Ame, qui est en fait qui veut dire pluie, donc neige et pluie, et qui, pareil, ont hérité de cette possibilité de se transformer en loup. Et je vais m'arrêter là. Un événement dramatique dans cette famille va arriver et Fleur devra élever ses deux enfants seule.
Arrête-toi parce que je sens que tu luttes pour ne pas trop
en dire. C'est le point de départ. Tout le film est basé sur comment je vais faire pour élever ces enfants que les autres peuvent pointer du doigt, etc. Comment les protéger dans un monde qui va forcément les rejeter parce que voilà, c'est des loups, ils font peur. Le loup est dans l'imaginaire collectif est un animal assez dangereux, ou en tout cas dans la représentation qu'on peut en avoir dans les contes. Et voilà, elle est un peu démunie face à ça. Et elle essaye de bien les élever correctement et c'est un peu compliqué pour eux, les enfants, de trouver leur voie aussi. Et c'est de là que part le film. Et c'est un film, mais d'une beauté magnifique. Déjà esthétiquement parlant, c'est très très beau, c'est très très léché. Et alors il y a un mélange d'animation traditionnelle, du dessin traditionnel, et un peu d'effet 3D pour des personnages, des perspectives ou des choses comme ça. Mais c'est fait de manière très subtile, ce qui fait qu'on s'en rend pas forcément compte que c'est de l'animation 3D. En fait, c'est bien intégré à l'animation 2D. On a l'impression de voir vraiment des tableaux, en fait, des véritables toiles. C'est assez contemplatif comme peut l'être ce genre de film d'animation japonaise. C'est un rythme assez lent, c'est tellement tendre, émouvant, tellement drôle aussi. Il y a des petits, enfin voilà, c'est un film qui fait sourire, qui fait rêver. On retrouve de son précédent film une thématique finalement un bipolaire un peu le réalisateur aime beaucoup associer parler de la campagne, de la nature. Il y a tout un travail un peu sur l'écologie, le fait de voilà savoir cultiver la terre, etc.
C'est marrant, ce sont des thèmes qui sont assez chers à Miyazaki dont on parlait il y a deux semaines dans l'épisode précédent.
C'est pour ça qu'il y a des points à faire avec avec Miyazaki, parce que il y a cette idée de retour à la campagne. Summer Wars, c'était déjà une famille qui retournait à la campagne, mais c'était un peu plus film d'action quand même, parce que
avec un titre comme ça, j'espère bien s'ils se mettent à faire de la couture toute la journée.
Pas tant que ça. Là, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus neutre, mais voilà, il associe tout, il parle toujours de la campagne et surtout aussi d'un fait de société. Dans Summer Wars, c'était la question de la vie privée. Avec les réseaux sociaux, etc. Summer Wars racontait un peu l'histoire d'un super réseau social qui amassait toutes les données confidentielles ou non d'ailleurs des différentes personnes. En fait, les gens étaient identifiés dans ce réseau social et tout passait par ça, que ce soit payer les factures ou je sais pas les impôts, etc. Tout passait par là. Et il y a un hacker qui arrive à foutre la pagaille là-dedans. Ça partait un peu de ce constat-là et toute la réflexion était sur la vie privée, la place de la famille aussi dans
Oui, donc là c'est pas du tout ça. Quoi.
Là, c'est aussi un fait de société, mais c'est plus par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. C'est plus vraiment la cellule familiale, même si elle est là, bien sûr, mais c'est la question de la tolérance.
L'acceptation,
voilà, la tolérance, de l'entraide, du regard des autres aussi par rapport à ce phénomène finalement un peu bizarre, des enfants qui se transforment en loups. Et voilà, des personnalités, des chemins de vie. Et c'est voilà, on tire sa larme quoi. On tire sa larme. C'est vraiment un film très touchant. Et franchement, j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce film-là parce que voilà, c'est ce genre de petite pépite qu'on passe à côté. Et ça serait dommage parce que voilà, les thèmes abordés, la manière dont c'est abordé est magnifique.
Tu dis tout le monde. Je vois que dans les notes de l'émission, tu l'as noté plutôt pour fans.
Parce que là aussi, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que ça serait peut-être plus abordable, à mon avis, pour un public de cinéphiles. Et forcément aussi de gens qui sont intéressés par la culture asiatique. Parce qu'il y a tout cet aspect traditionnel, on va dire, tradition asiatique. Mais le thème est tellement universel, la famille, élever des enfants et comment affronter finalement le monde extérieur.
On est entre les deux.
Le fait est que voilà, c'est pas très abordable dans le sens où il y a pas beaucoup d'action, c'est assez lent, etc. Et donc des jeunes enfants, très jeunes enfants, pourraient peut-être passer à côté ça demanderait peut-être un tout petit peu de maturité pour comprendre vraiment toutes les subtilités du film. D'accord. Mais c'est un très très beau film. C'est un beau film d'animation. Okay. Vraiment.
Super. Et pour les fans de japonais, on peut signaler que le titre japonais est Okami Kodomo no Ame to Yuki, ce qui veut dire bon Ame to Yuki c'est les enfants hein, la pluie et la neige, mais Okami bon Kodomo c'est les enfants. Okami c'est sans doute lié à Amaterasu Omikami qui est la déesse du soleil et les fans de jeux vidéo se souviendront de Okami qui est un jeu de Capcom qui est très poétique et très apprécié d'un certain public. Et donc c'était marrant de voir que Okami ça se retrouve en fait, c'est vraiment lié j'imagine à la déesse du soleil, et on se souviendra que dans le jeu de Capcom, elle est aussi représentée comme un loup. Donc,
c'est marrant que tu parles de ça parce que je ne savais pas justement la signification du titre japonais. Et effectivement, le soleil a
une grande importance.
Un rôle important, mais est présent et à chaque fois à des moments un peu clés et ça permettrait d'interpréter le film aussi.
Et également en rapport avec le nom des enfants. puisque la pluie et la neige.
Exactement.
Soleil, oui. Donc voilà, ouais. Petite touche culturelle supplémentaire.
Je pourrais aller plus loin, mais je spoilerai le film.
Voilà. Ok. D'accord. Bah écoute, ça a l'air très intéressant aussi, et je comprends pas comment je suis complètement passé à côté. Mais du coup, tu me permets de le redécouvrir. C'est très très bien.
Et Summer Wars, à la limite, c'est beaucoup plus grand public, donc peut-être commencer d'abord par Summer Wars et ensuite Les Enfants Loups.
D'accord.
S'il y en a vu deux.
Ok. D'accord, super. Et ben écoute, merci Vivian et merci beaucoup à Marion aussi. On arrive à la fin de cet épisode et donc c'est le moment de vous demander à tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. Marion, à toi de commencer.
Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur le blog de musique waltzsession.fr ou également sur la chaîne de test de Jérôme qui s'appelle nowtech.tv ou sur Twitter au pseudo Aizea Design. C'est un peu compliqué, mais ça marche.
Ok, super Marion. Vivian, pour ta part, c'est où ?
Alors, vous me retrouvez en tant qu'animateur de l'émission audio de cinéma, normalement hebdomadaire, mais un petit peu moins en ce moment. Ça tourne, SAT2ORN. .fr sur le site satourne.fr. On est disponible sur iTunes et sur SoundCloud si vous préférez nous écouter en streaming. Et moi pour ma part sinon c'est sur Twitter @VivianRoldo, VivianRoldo. Voilà.
Magnifique. Et pour moi-même, c'est donc NotPatrick sur Twitter. Et puis à partir de là, vous trouvez un petit peu tout, hein, c'est pas trop difficile. Et entre parenthèses, j'ai oublié de le préciser la dernière fois. Non, enfin, j'en avais parlé, mais il y a des albums, des photos du Japon que j'ai pris pendant mon voyage, un petit peu partout sur Facebook, Google+, sur Flickr aussi. J'utilise encore Flickr parce que je suis un petit peu vieux jeu.
Ah bah merci, j'utilise Flickr.
Moi aussi, sympa. Moi je consulte Flickr assez souvent. Ah
bah, on ne le savait pas mais on est tous sur Flickr, donc c'est très bien. et vous pourrez trouver les liens sur le site patrickbeja.com qui est lié de mon compte Twitter. Donc voilà, je vous dis tout est lié. Et si vous voulez aussi laisser des commentaires sur iTunes sur notre émission, c'est évidemment très apprécié, on vous le dit régulièrement. Vous pouvez faire comme Pingouin04 qui dit « Trop bien le générique, c'est le seul truc qui permet de me sortir du lit le samedi matin. Très bonne émission, bravo. » Donc effectivement, si vous appréciez le générique de l'émission, c'est également quelque chose que vous pouvez commenter, notamment sur iTunes. Ah tiens, bah entre parenthèses, puisque je parle du générique, c'est mon frère qui a composé le générique, c'est mon frère qui a composé les génériques de toutes mes émissions d'ailleurs. Et si vous êtes à la recherche de musique libre de droit, vous pouvez aller sur son dernier site qu'il vient de monter, qui s'appelle Music in Cloud, qui vend de la musique libre de droit plutôt bien foutue, franchement. Vous connaissez la qualité de ses compositions puisque vous écoutez les émissions. Et là, il y a de la musique libre de droit. Si vous avez besoin de faire des petites vidéos pour votre boîte ou des petites vidéos sur Internet ou ce genre de choses, ou même pour de la production de vraie qualité, ça pourra vous servir. Donc, je rappelle le titre. Le nom, c'est musicincloud.com. Et c'est franchement pas mal du tout. Et je dis pas ça parce que c'est mon frère. Donc, bref, la musique qui vous permet de vous sortir du lit le matin. J'espère que l'émission vous plaît aussi.
On peut souhaiter un bon réveil, du coup, à Pingouin.
Voilà, ouais, exactement.
Bon réveil, écoute... Il est temps de se lever maintenant.
Oui, ça y est, là c'est terminé.
Attends, c'est le lendemain de Noël, laisse-lui un peu le temps.
Ouais,
c'est vrai, c'est vrai. et puis bon, donc que la musique et l'émission vous plaisent ou pas, on s'arrête, mais que les musiques et l'émission vous plaisent ou pas, on revient dans 15 jours. Ça sera
en 2014.
En 2014, oui, tout à fait.
Wow.
En 2014, on revient pour un nouvel épisode. Entre-temps, vous aurez évidemment Upload qui sera là pour vous tenir compagnie si vous aimez les applications mobiles et la mobilité en général. Et puis voilà, donc on vous souhaite un bon cuvage de Noël et un très très bon jour de l'an, enfin une très très bonne année. On vous fait donc deux grosses bises pour ces deux occasions et on se dit à dans 15 jours. Bonjour, ciao à tous.
À bientôt.
Salut tout le monde. Don't know.
Oh,